Il y a trois TP à traiter là. Il y a embryologie, il y a anxiété et réponse électrodermale. Embryologie, bon, les objectifs, étudier l'évolution de la motilité chez l'embryon. Ça, c'est le but. La motilité, ça veut dire voir les premiers mouvements. Ne confondez pas motilité et mobilité. Motilité, c'est des mouvements. Mobilité, c'est quand en plus on bouge. Donc, motilité chez l'embryon, voir l'apparition de ces mouvements. L'initiation aussi à l'observation éthologique. Là, vous en avez fait pas mal aujourd'hui. Vous avez fait ça en TP vidéo. Vous avez fait aujourd'hui l'anxiété. Vous avez directement observé des souris, sauf pour les étudiants qui ne supportent même pas de voir une souris. Alors, je ne sais pas comment ça se passe quand il y a une souris à la télé. Regarde pas la télé. Ah, c'est pourtant des petites bêtes bien sympathiques qui chantent, hein, je l'ai dit à certains. C'est le chant de la souris.
Chante,
mais bien sûr. Bien sûr, la souris chante. On l'entend pas parce qu'elle chante dans les ultrasons. Mais elle chante. Et si on modifie les fréquences pour écouter la souris, on les modifie pour le rendre audible, on entend un chant mélodieux, comme un chant d'oiseau. Voilà, donc, alors, c'est des animaux très sympathiques. Et qui ne sont franchement pas dangereux. Bon, et ensuite, aborder la notion de comportement prénataux. C'est-à-dire que tous les comportements commencent déjà avant la naissance, pensez à ça. Lorsqu'on est content, quand il y a une femme qui est enceinte, et on sent les mouvements, on voit même un pied qui pousse sur la peau du ventre. C'est parce que déjà le fœtus est en train de bouger, est en train de se mouvoir. Là, je dis mouvoir, parce qu'il va bouger. Au moment où vous voyez ça, il va bouger. Donc, ça, c'est le but. Le support biologique, c'est du poulet. Bon, n'allez pas penser que c'est parce que c'est du poulet, c'est pas sérieux. La grande majorité des données qu'on a obtenues sur l'embryologie, sur la vie fœtale, vient des oiseaux. Ça vient des œufs de poulet et des œufs de caille. Hein, pensez à ça. Et on choisit les oiseaux parce que les stades de développement sont très ressemblants à ce qu'il y a chez l'humain. C'est-à-dire que lorsqu'un poulet, un jeune poussin sort de l'œuf, ben il est à peu près au même stade qu'un enfant qui naît. Bon, mais ça se passe en 21 jours, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, ça ne se passe pas in utero, ça se passe dans un œuf. Ce qui veut dire qu'on peut aller regarder à l'intérieur. Vous voyez un peu, donc ça a été très pratique. Alors ensuite, ce que vous avez observé, là par exemple, motilité cardiaque, les battements cardiaques, ils apparaissent assez tôt. Voilà, un jour, il y a déjà des battements cardiaques. Si vous avez vu la vidéo, vous voyez le cœur qui bat très tôt. Regardez les battements. Bon, à 30 heures, on est à 8 battements par minute. 3 jours, 128. Et imaginez que vous êtes aux alentours de 70, 80. Un sportif, c'est plutôt aux alentours de 60. Quelqu'un qui est moins sportif, c'est plutôt pas loin du 100. Mais regardez ici, on est à 128, 4 jours, 180, 200. 260, on arrive à un maximum de 280. À 19 jours, un peu avant la naissance, on est à 250. Les oiseaux ont des battements cardiaques qui sont très rapides. Alors, ça va se stabiliser entre 200 et 250. Ouais, c'est quand même différent de nous au point de vue battement. Et regardez la forme de la courbe, c'est que, bon, d'une part, le phénomène apparaît, il va se développer, il va maturer, il va arriver à un maximum, et puis ça va décroître. Ça, c'est quelque chose de général. Lorsque un mécanisme se met en place, il va y avoir comme un peu une sorte d'exagération à un moment. Et puis, ça va se stabiliser à une valeur inférieure. Donc ça, c'est le genre de courbe que vous devriez voir. Mais dans votre TP, vu que vous n'êtes pas allé jusqu'à 19 jours, hein, et que même, je crois qu'aux alentours de 10 jours, ça commençait déjà à être quasi inappréciable, vous allez voir, vous, juste la courbe ascendante. Que cette partie-là. Si vous traitez vos données, vous verrez que la partie ascendante. Bon, oui, pas les mêmes valeurs que là, hein, ça vient d'une publication, mais ça sera ressemblant. Ensuite, motilité passive qui apparaît vers 3 jours et demi. Dans cette motilité passive, le cœur est externe à l'embryon et proche de la tête. Et lorsque vous voyez, regardez la tête, vous voyez cette tête qui bouge avec le cœur. Et en fait, le cœur est en train de pousser sur la tête. Ce phénomène, cette motilité passive, va disparaître vers 6 jours et demi. Lorsque le cœur va vraiment rentrer dans la cage thoracique, va être enfermé dans cette cage thoracique, et n'aura plus d'influence sur la tête. Vous ne verrez plus cette motilité passive. Ensuite, les calculs à faire. Comment calculer un cycle de motilité, un cycle d'activité? Alors le critère, c'est si vous avez des mouvements espacés de moins de 10 secondes, c'est que vous êtes dans un cycle d'activité. Si c'est espacé de plus de 10 secondes, c'est que vous êtes dans un cycle une phase d'inactivité. Alors, lorsque vous mesurez le temps, vous avez un premier mouvement au temps zéro ici. Et que le mouvement suivant se situe à 9 secondes, c'est une phase active. Ensuite, si pendant 11 secondes vous n'avez pas d'activité, c'est une phase inactive. Votre critère, c'est 10. Et donc, cet ensemble-là, c'est un cycle de motilité qui dure une vingtaine de secondes, là, dans ce cas-là. Mais imaginez si vous avez des mouvements, bon là, 3 secondes, 5 secondes, 9 secondes, et un autre mouvement encore à 14 secondes, il faudra attendre encore 11 secondes pour mesurer une phase d'inactivité. Donc ça, c'est comment on mesure ces phases d'activité et d'inactivité. Ensuite, si vous faites l'évolution pendant le développement, et là, pendant les jours d'observation que vous avez eus, ce que vous allez faire pour mettre en évidence ces phases d'activité, c'est d'une part placer des phases inactives ici, pour mesurer les phases inactives, et vous rajoutez par-dessus la phase active. Et donc ça vous fait un cycle d'activité ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir une évolution, avec des phases, pendant la première période, des phases d'inactivité de plus en plus grande, alors que la phase d'activité est relativement faible. Et puis, dans la deuxième partie, vous voyez que les phases d'inactivité vont diminuer pour laisser place à des phases d'activité plus larges. Si vous regardez l'ensemble du phénomène, vous voyez quand même, comme pour le cœur, vous voyez que ça va vers un maximum et puis ça va diminuer. Ok ? Ça, c'est pour les calculs à faire avec ce genre de données. Si on regarde la motilité spontanée, la même chose, donc motilité spontanée, l'embryon bouge par lui-même. Hein, c'est pas passif. Cette motilité spontanée, vous allez avoir une phase précoce avec d'abord l'apparition, ici l'apparition vers 3 jours, et puis une augmentation assez rapide du nombre de mouvements, arriver à un maximum dans la phase moyenne, et puis ça diminue pour quasi disparaître. Donc, toujours pareil, lorsque vous regardez le développement, vous regardez un phénomène, un mécanisme, un processus, vous allez le voir apparaître d'abord et puis se développer. Et quelque part, la maturation réelle de ce phénomène, c'est une diminution, une stabilisation des valeurs plus faibles. Et je crois qu'il y a un dernier point pour cette embryologie, les contractions amniotiques, qui là, viennent de l'amniose, et donc ça veut dire que c'est des mouvements qui vont se produire au niveau de l'œuf. C'est très important parce que ça va éviter que l'embryon ne reste collé à une phase de l'œuf. Ça, c'est essentiel. Et donc voilà aussi le même phénomène. Bon, ça apparaît là vers 4 jours. Enfin, ça apparaît un peu avant 4 jours, mais 24 jours, on le perçoit assez bien. On a 9 mouvements par minute, ici en moyenne. Ça va augmenter, arriver à un maximum aux alentours de 8-9 jours, avec des fréquences de mouvements de 24 à 25 par minute. Donc assez rapide. Et puis ça va diminuer très rapidement pour disparaître cette fois. Pour disparaître aux alentours de 13 jours, alors que l'embryon, là, va commencer à occuper toute la place dans l'œuf. Hein, donc c'est un moment où il n'y a plus moyen de bouger. Mais pensez quand même que la poule va faire tourner l'œuf régulièrement. Hein, quelque part, c'est le mouvement de la poule qui va produire autre chose. Dans une couveuse, où il n'y a pas de poule, l'appareil fait bouger les œufs de manière régulière pour mimer quelque part la fonction de cet amnios. Ensuite, la motilité réflexogène. Bon, réflexogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système nerveux commence à fonctionner, pas juste pour produire de la motilité, mais pour répondre à un stimulus. Ça veut dire qu'il y a une boucle réflexe qui se met en place. Là, cette boucle réflexe qui se met en place, eh ben, 4 jours et demi, il n'y en a pas. Vous touchez l'animal, il ne se passe rien. Vous le stimulez, il ne bouge pas. À 6 jours et demi, vous stimulez, vous allez avoir une contraction en réponse à la stimulation si vous stimulez la tête. Donc les premiers réflexes vont commencer par les parties rostrales. À 8 jours, il y a des mouvements généraux de tout le corps après une stimulation de la tête. Vous touchez la tête, c'est le corps entier en fait qui bouge. Ça a tendance à montrer que le développement est antéro-postérieur. Ça veut dire que ça part de la tête et ça va s'étendre vers le reste du corps. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir dans le TP que vous avez observé. Et pensez que par la suite, tous ces mouvements vont devenir de plus en plus précis, les réflexes vont devenir de plus en plus précis en se développant de manière rostrocaudale. Lorsqu'on va stimuler une partie du corps, c'est cette partie du corps qui bougera, qui va agir. Rostrocaudale, de la tête vers la queue. Donc, TP que vous avez fait aujourd'hui. Ça, c'est un TP qui est en relation avec le cours de Marie Trabalon, qui apparemment n'a pas fait les psychotropes. Donc, n'a pas utilisé les anxiolytiques. Bon, mais on n'a pas utilisé les anxiolytiques non plus. Mais c'est les TP que vous avez fait là, les deux TP. Là. Ces deux TP, c'est des manips qui sont utilisés dans les entreprises pharmaceutiques, hein, pour tester ces molécules. Bon, le but, initiation à l'observation éthologique, ça encore comme pour l'embryologie. Familiarisation avec les méthodes d'échantillonnage, ça aussi c'est de l'éthologie, hein, c'est les techniques, les méthodes qu'on utilise pour traiter les données. Examiner une éventuelle différence liée au sexe, et les deux tests utilisés, la boîte clair-obscur et le labyrinthe en croix. Bon, dans les labos pharmaceutiques, on teste des anxiolytiques avec ces deux systèmes. On teste aussi quelques autres choses. Je pense que Marie vous en a parlé dans son cours, hein, où on accroche une souris par la queue, qui est franchement pas très sympathique. Quand vous savez que lorsqu'on pince une queue de rat ou de souris, ça fait très mal, et c'est un des tests pour stresser un animal, hein, c'est pas très très bien. Bon, là c'est beaucoup plus sympathique, hein, une chambre clair-obscur et un labyrinthe en croix surélevé. Vous regardez le comportement de l'animal, vous apercevez qu'il ne va pas aller facilement à différents endroits. Quand l'animal est sur le labyrinthe en croix, il va beaucoup moins, je pense que vous avez dû le voir, beaucoup moins sur les branches sans parois que sur les branches avec des parois. Bon, quelque part, il n'est pas bête. Si vous injectez un anxiolytique, vous verrez un animal qui va se promener beaucoup plus facilement sur les branches sans parois. Ça le stresse beaucoup moins d'aller à ces endroits-là. Donc il sera un peu plus... Il sera un peu plus entreprenant, oui, téméraire, voilà. Goût du risque. On peut en trouver d'autres très anthropomorphiques. Donc, la boîte clair-obscur. Le test, oui. Vous allez noter, là, on vous a montré comment faire des scans, par exemple. Toutes les 10 secondes, on note la position de l'animal, enfin différentes caractéristiques. Et lorsque vous avez fini de mesurer ça de cette manière, vous allez traiter les données. Traitement, bon là par exemple, ça va être tant de pourcentage passé dans tel endroit ou tel autre endroit. On demande aux étudiants de le faire toutes les 10 secondes, mais normalement c'est toutes les 5. Hein. Mais les assidus ont respecté, ont dit on n'y arrive pas. Parce que toutes les 5, c'est un peu plus précis quand même. Quand on fait de l'éthologie, en général, ce qu'on fait aussi, ben, c'est ce que fait Laurie Rojinski en ce moment. Et il est en train de me filmer. Après, on peut observer et faire un répertoire comportemental de tout ce que je fais. Et on peut faire des statistiques dessus. C'est-à-dire que, bon, une fois que c'est filmé, ben, si on rate un comportement, on peut revenir en arrière et noter. Et donc, on arrive à faire quelque chose de très, très, très performant. Mais la méthode de traitement des données, c'est ça. On va récolter on a un répertoire comportemental, on va récolter ces données de manière systématique, avec un temps bien précis. Quand on a tout ça, on va faire un traitement qui va nous permettre de mettre en évidence des caractéristiques. Là, le but ici, c'est savoir combien de temps passe l'animal dans un endroit ou un autre. Ici, boîte clair-obscur, l'animal qui est plutôt stressé, plutôt anxieux, entre guillemets, parce que je caricature, passera plus de temps dans la partie noire que dans la partie claire. C'est la peur de la chose haute. Quand on met un animal sur ce qu'on appelle un open field, ça peut être une boîte, vous en avez peut-être vu, une boîte carrée, assez large, on fait un quadrillage au fond pour mesurer la position de l'animal à chaque instant. On met l'animal et on va voir. Alors, en général, l'animal va surtout suivre les parois. C'est rassurant. Entre guillemets, hein, j'utilise des mots qui permettent de comprendre, mais c'est jamais être trop anthropomorphique. Donc, là, le TP, il dure 6 minutes sur un animal, 3 minutes dans la partie obscure, ensuite on ouvre la porte pour permettre à l'animal de passer de l'autre côté. Et donc on va tester, on va faire les tests pendant 3 minutes sur les deux parties. Mesure réalisée, la première partie c'est un comportement avec des scans toutes les 10 secondes et des focus. Focus c'est regarder le comportement que fait l'animal pendant un certain temps. Deuxième partie, scan et focus, toujours de la même manière. Et puis voir quelles sont les zones occupées. Et les latences d'entrée dans les différentes zones. Bon, latence d'entrée, et là, on vous dit latence d'entrée du museau, puis des deux pattes antérieures, puis des quatre pattes. Là aussi, rien que cette mesure. Hein, vous imaginez, vous mettez un animal dans un endroit donné, et vous ne faites que mesurer la latence de changement de zone, et vous le faites de manière systématique sur plus un certain nombre d'animaux, vous allez avoir une idée assez claire de l'état de stress de l'animal. Et là aussi, si vous mettez un anxiolytique, vous verrez que ça va très vite. L'animal change d'endroit très facilement. Donc c'est vraiment c'est des tests qui sont très performants. Hein. C'est vraiment utilisé pour avant de mettre sur le marché des psychotropes. Ici, des anxiolytiques. Donc, test de la boîte clair-obscur, comment exploiter les données, bon, quelle est la latence d'entrée, bon, je viens de vous en parler, dans la partie claire. Et là, bon, vous allez noter les latences pour vos différents individus. Vous faites les moyennes, bon, là, vous n'aviez pas beaucoup d'individus, vous avez 2 mâles, 2 femelles. Dans le temps du TP, vous ne pouvez pas faire plus. Ce que nous, on peut faire, c'est quand on récupère les données des étudiants, dans les séances de bilan, nous, on fait des moyennes entre les différentes séances et on arrive à extraire une information et faire des statistiques dessus. Là, on ne peut pas. Bon, la latence maximale est de 280 secondes. Ça, c'est juste pour rappeler quand même aux étudiants que ça ne peut pas dépasser 180 secondes puisque ça dure 3 minutes. Mais ça vous fait sourire. Mais bon, c'est qu'on a l'habitude. Donc on prévient quand même. Même avec ça écrit en bas, il peut y avoir des choses étranges. Et on se demande où l'étopée a été faite à ce moment-là. Donc plus la latence est longue et plus l'animal est anxieux. Bon, sur ce que vous avez fait là, on peut trouver des différences entre mâles et femelles. Mais bon, il faut avoir plus de données. Et on ne va pas vous faire un TP avec un anxiolytique, même si avec d'autres formations, avec des masters, il y a des petits TP sur des petites formations où on le fait. On ne va pas piquer une cinquantaine de souris avec un anxiolytique. Ça ne serait pas très sympathique pour l'animal. Et... Là, les souris qu'on a en ce moment ne font que des tests sympathiques. Même avec d'autres formations, on teste aussi la différence entre des souris qui vivent dans un milieu enrichi et des souris qui vivent simplement dans des cages. Milieu enrichi, ça veut dire avec un tourniquet, avec une balançoire, des tunnels, enfin des choses. Et là, on trouve vraiment des différences sur le plan anxieux. Ils sont un peu plus intrépides, les autres. Donc, test boîte clair-obscur. Quelle zone est préférentiellement occupée par les différents individus? Là aussi, pareil, vous allez noter avec les scans, le nombre de scans pendant lesquels l'animal s'est retrouvé dans la partie obscure ou dans la partie claire. Il y a 18 scans en tout, hein, il y a 180 secondes, on fait un scan toutes les 10 secondes, donc il y en a 18. Donc là, vous verrez si c'est plus côté obscur ou côté clair. Et vous mettez ça en pourcentage pour que tout soit comparable, c'est-à-dire que si on veut comparer une multitude d'animaux, ben il vaut mieux normaliser les données, et donc les mettre normaliser entre guillemets, parce qu'il faut faire attention, le mot peut être utilisé en statistique, donc ce n'est pas en ce sens-là que je l'ai dit. Hein. C'est leur donner, donner la même forme à toutes les données. C'est pour ça qu'on fait des pourcentages. Enfin bon, pour les données comportementales, budget d'activité. Si vous notez que l'animal va souvent d'un endroit à un autre, ça c'est quantifiable et on va voir s'il est très actif ou peu actif. Et fréquence d'occurrence de différents comportements dans la zone occupée par l'animal, partie obscure versus claire, c'est-à-dire un même type de comportement d'un côté ou de l'autre, voir de quel côté le comportement est le plus souvent fait. Je crois que c'est tout pour la boîte. Ensuite, il y a le labyrinthe en croix. Bon, là, le test dure 6 minutes. Un labyrinthe en croix surélevé, bon, c'est une croix. Les plateaux ont une largeur suffisante pour que la souris puisse tenir dessus. Il y a deux bras ouverts, deux bras fermés, un en plexiglas. Bon, et dans le système que vous avez utilisé, la partie plexiglas est plus basse que la partie... obscur, enfin obscur, opaque, pardon, pas obscur. Donc là, bon, le truc, c'est voir combien de temps va passer l'animal dans un endroit ou un autre. Les bras occupés, bras ouverts, droit ou gauche, bras fermés, paroi basse ou paroi haute, avec des scans de 10 secondes toujours. Donc, je veux dire, toutes les 10 secondes, je regarde où est l'animal. Toutes les 5 secondes, ça serait mieux. Mais... Si on veut faire un test, là c'est pour les TP, hein, c'est juste pour apprendre. Si on veut faire un vrai test, bon, on le fait d'une part toutes les 5 secondes et on le fait sur un temps plus long. Pas juste que 3 minutes ou 6 minutes. La zone du bras, proche, intermédiaire ou distale. Ouais, donc ça veut dire bon, une souris qui va au bout du bras ouvert, c'est qu'elle elle y va, quoi. Elle est bien. Bon, et les comportements, là aussi, des scans toutes les 10 secondes et focus. Et là, pareil, bon, vous allez noter, d'une part, la latence pour aller dans les différents endroits. On rappelle aussi que là, c'est 360 secondes, 6 minutes. Et le bras préférentiellement occupé, zone centrale, bras ouvert, bras droit, bras fermé haut. Donc là, vous allez noter le nombre de fois qu'il est dans ces différents endroits et vous l'exprimez en pourcentage. Oui.
Juste sur
la latence.
Pour la croix.
Mm-hmm. La latence pour la croix. Bon, vous allez mettre la souris au milieu. Mm-hmm. Qu'elle est là. top chrono. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer et elle va mettre un certain temps pour, par exemple, aller ici. Donc vous notez la latence pour aller dans le bras fermé. Elle va continuer à bouger et elle va sortir de cette zone et rentrer dans une autre zone. Et là, quand elle rentre dans cette autre zone, dans laquelle elle n'était pas encore allée, vous notez le temps. C'est le temps entre le moment où on démarre la manip et le moment où, pour la première fois, l'animal rentre dans une zone donnée.
Et c'est entre les deux, c'est le moment, le moment où elle est entrée dans une zone et le moment où elle entre dans la zone suivante.
Voilà. Non, la latence, c'est entre le moment où on démarre la manip et la première fois que l'animal rentre dans une zone. C'est un phénomène qui ne se passe qu'une fois. Le budget d'activité, donc comme pour la boîte clair-obscur, ouais, ça c'est la quantité de mouvement que va effectuer l'animal. Et là, vous avez une idée de, en fonction des endroits où il est, en faisant le scan, vous savez qu'il s'est déplacé beaucoup ou pas. Et donc là, c'est des données que vous pourrez comparer dans différentes situations ou ici dans différents sexes. Fréquence d'occurrence de différents comportements selon la zone du labyrinthe occupé. Là, bon, vous allez noter un certain nombre de comportements. Bon, je ne sais plus si on vous demande la marche étirée, sur ce genre. S'étire sur une paroi. Le nombre de comportements dans une zone donnée. Bon, il y a quelques comportements qui sont un peu... Même par exemple, étirés sur la paroi. Ça marche quand on est dans une branche où il y a les parois. Une branche où il n'y a pas de parois. Donc on peut comparer les deux types de branches avec parois, mais pas avec les autres. Donc là, bon, c'est là où il faut toujours réfléchir aux comparaisons qu'on va faire. Quand même. Et dire que bon, il n'y a pas d'étirement sur la paroi, sur la branche sans parois, c'est une évidence. Parce que vous faites un compte rendu, il ne faut pas mettre ce genre de choses. Et lorsque vous faites une étude, bon, vous ne faites pas ce genre de choses. Et je crois que c'était le dernier, voilà. Donc, réponse électrodermale. Le but du TP. Bon, c'est une illustration de psychobiologie des émotions. C'est un marqueur physiologique des émotions. Bon, vous avez vu qu'on a mis deux électrodes sur les doigts d'un sujet. On met ces électrodes sur la partie palmaire des mains. On aurait pu mettre ça à l'intérieur de la paume de la main. Ça marche aussi. C'est plus difficile à coller. Mais sinon, c'est très bon. Dans le temps, avec le matériel que vous avez utilisé aujourd'hui, les électrodes, c'était une pince qu'on mettait autour de la main, comme ça. Et la technique était exactement la même, à part qu'à l'époque, on avait des traceurs graphiques sur du papier et que le réglage était assez compliqué. Alors que là, je ne sais pas si vous avez vu, bon, sur l'écran de l'ordinateur, ça, on le voit, mais alors, si vous saviez comme c'était difficile à voir. Ce que vous avez mesuré, je vous l'ai dit en TP, hein, c'est la conductance de la voix. Ça veut dire quoi? On fait passer un courant à travers la voix. Donc on met une électrode sur deux doigts différents, le courant rentre dans un des doigts et ressort par l'autre. L'intérieur de votre corps est conducteur, donc ça conduit le courant assez facilement. C'est plein de solutions salines, donc... il n'y a pas de problème, mais par contre la peau est isolante. Je vous ai montré qu'en fonction des sujets, ça marchait ou pas. Moi, par exemple, sur le matériel qu'on a en TP, ça ne marche jamais. C'est terrible, parce que si je voulais tester des choses sur moi, je n'y arrive pas. Donc je demande à quelqu'un, le technicien qui ce matin a aidé à installer les salles, s'y prête très bien, sur lui ça marche très bien. Alors pourquoi ça ne marche pas? Bon, la peau peut être très épaisse, ce qui fait qu'elle est très, elle est très isolante, et donc il n'y a pas de courant qui passe. Il faudrait changer le matériel et avoir des équilibres un peu différents à l'intérieur, avec des résistances différentes, pour arriver à le faire. Le matériel moderne qui fait ça très bien, et automatiquement en plus, mais ça coûte très cher, et donc on utilise du vieux matériel. Alors, comment on mesure cette conductance ? C'est pas très compliqué. La sueur est un liquide conducteur. S'il y a de la sueur, le courant passe. Il passe plus facilement. Le système à l'intérieur de la boîte, c'est ce qu'on appelle un pont de Weston. Un pont de Weston, c'est une série de résistances qui ont une forme de losange. Tiens, je vais vous dessiner peut-être ces décrets. Et ça vous expliquera un tout petit peu ce qui s'est passé. Vous faites passer un courant par ici. Et vous le faites partir sur deux branches qui ont exactement la même résistance. Ensuite, l'une des branches, vous mettez les doigts. Et sur l'autre branche, vous mettez une résistance variable. On adapte cette résistance de manière à avoir la même résistance que la peau. C'est ce qu'on fait quand on tourne le bouton. Vous avez vu, on tournait un bouton et la ligne montait ou descendait. Et le problème qu'on avait avec certains, c'est que bon, on arrivait au maximum et on ne pouvait pas. Et on ne pouvait rien mesurer. Donc le courant va passer par là. D'un côté, par la main, de l'autre, avec une résistance qui est équivalente à la main. Et on mesure. Ce que vous mesurez dans l'ordinateur, eh ben, c'est le courant qui passe par là. Ça veut dire quoi ? Ben, imaginez, si la résistance est moins forte ici, le courant va toujours passer par l'endroit où la résistance est moins forte. Ce qui veut dire que si ça devient moins fort, il y a moins de résistance par là, le courant, au lieu d'aller de manière égale de chaque côté, il va se déplacer par ici et passer par là. Et là, on mesure le courant qui passe ici. De cette manière, on s'aperçoit que la résistance de la peau diminue. On mesure à ce niveau-là. Je vois des têtes qui... C'est trop compliqué l'électricité. Vous voyez, si les résistances ici sont égales, on partage le courant en deux. OK ? Si les résistances ici et ici sont égales, le courant va passer des deux côtés de manière égale. Si ici ça change, si ça augmente, le courant passe par là. Donc ça veut dire qu'on a un courant qui passe par là. Si ça diminue, le courant passe par ici. Parce que c'est moins fort, la résistance est moins forte. Et ce qu'on mesure sur cet appareil, c'est juste cette variation. Et ça, c'est juste une manière de mesurer la conductance de la peau, et cette conductance, eh bien, elle est dépendante de l'état émotionnel de la personne. Si vous avez une émotion, si, imaginez, là, je ne vais pas le faire, sinon ça va perturber l'enregistrement. Mais imaginez, j'arrive là par hasard, là, comme ça, là, tranquillement, et je donne un grand coup sur la table. Ça fait un grand bruit, vous êtes tous surpris. Quasiment, immédiatement après, quasiment, hein, c'est à peu près une à deux secondes après, vous avez un peu de transpiration dans votre corps. Un peu de transpiration, la résistance diminue, le courant passe comme ça. Et on mesure le taux de courant qui passe par là. Et plus il y a de courant qui passe, et plus la transpiration est forte. Et le taux de transpiration va être très dépendant de l'émotion reçue, de l'émotion produite, pardon. Bon, vous avez vu les tests qu'on a utilisés, c'était gentil, hein, les stimuli, c'était quelques images, un petit lapin, comment ?
Il aurait pu y avoir plus de robots.
Plus de rats. Je me suis posé la question quand j'ai fait le diaporama, est-ce que je mets des images Oh, c'est pas Jacques, là. Juste un rugbyman qui n'est pas très habillé. Et... On voit juste qu'il a des tablettes de chocolat. Je pense que j'ai plus depuis longtemps. Ça m'énerve, là. C'est Séverine qui a dit ça. Hein. Un jour, bon, les étudiants font le TP et tombent sur ça à la fin. Et la réaction de l'étudiante, là, c'est... Rom.
Ça a bien marché.
Mais ça a marché ce matin. Hein. C'était qui, là? C'était... Par contre, ça ne marche pas avec tout le monde. Alors, je ne sais pas si ça dépend du sexe. Non, mais vous voyez le truc, quoi. C'est, on essaie de provoquer une émotion. Là, on essaie de provoquer des petites émotions, en fait. Ce n'est pas de faire quelque chose de très fort. Et c'est sûr que si on mettait des images vraiment choc, bon, les cerveaux endommagés, je vous ai déjà montré ça en cours. Donc ça veut dire que, enfin pour ceux qui étaient en première année, je l'ai montré qu'en première année, alors je ne sais pas, il y en a d'autres qui ont dû montrer le même genre d'image depuis, dans les 3 années de licence que vous avez faites, vous avez dû en voir plusieurs, donc ce n'est pas impressionnant. Mais ce qui est assez étonnant, bon, c'est que des choses anodines comme le lapin, ça peut provoquer des réactions très fortes. Petit lapin. La pomme, si c'est avant midi, ça peut provoquer des réactions très fortes. Les clés. Un trousseau de clés, eh ben, ça fait peur à certains. Donc c'est des choses qui sont pas... C'est pas extraordinaire, mais... Chacun de ces stimuli va provoquer quelque chose. Les sons, ils sont un peu exagérés. Il faudra que je maîtrise un peu mieux les sons parce qu'ils sont trop forts en fait. Il faut arriver à régler de manière à ce que ce soit un peu moins brutal. Mais vous voyez le truc, on va faire des, on va mesurer des réactions qui sont plus ou moins fortes. Ouais.
J'avais une question par rapport au départ, quand on a testé un peu le sujet, on a demandé de retenir notre respiration. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sueur que
ça modifie la conductance, ça modifie la circulation sanguine.
Oui.
Pensez, la conductance dépend aussi de la quantité de sang qui passe sous la peau. Et donc, c'est un truc qui marche très bien et qui marche sur tout le monde, hein, vraiment. Hein, c'est. Mais plus ou moins fort, ça dépend vraiment des individus, hein, là aussi. Donc je vous ai demandé de noter un certain nombre de choses. Alors, je vais vous les montrer un peu. Ouais, non, là, on l'a fait une deuxième fois, parce que la première fois, le signal là, est descendu et est sorti. Mais il a dû sortir très 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 bas. Ça veut dire que sa peau conduisait le courant, mais alors d'une manière, c'est transpiré. Donc, vous pouvez récupérer des données. Vous pouvez aussi les passer aux autres. Hein. Si je suppose que s'ils voient le film qui a été fait aujourd'hui, ils peuvent voir comment on prend les mesures. Bon, je remonte un tout petit peu comment on prend les mesures là. Hein, pour que ce soit assez clair pour tout le monde. Donc on récupère le curseur, on se met au début de la réponse, on se met au maximum de la réponse. Là, le maximum de la réponse est ici. Faites attention parce que on fait le TP dans des conditions qui sont un peu là surtout aujourd'hui, il y avait des caméras, ça pouvait être un peu perturbant. Donc la réponse, c'est juste après le stimulus qui était à ce moment-là. La réponse, c'est la première descente ici, et le maximum est ici. Ce que vous voyez juste après, c'est une perturbation qu'il y a eu par-dessus. Et donc faites attention, et souvent le retour ici, c'est pas génial. Il y avait un des signaux quand même, je vais essayer de le retrouver, c'était, je ne sais plus qui était sur l'autre poste, il y avait quelques signaux qui étaient vraiment comme dans les livres. Donc je vais essayer de le retrouver. Donc là, on prend l'amplitude. Ça, c'est l'amplitude maximale. Là, vous avez les valeurs de la position de chaque curseur. Et le programme fait la différence, simplement. Là, vous êtes à 264 millivolts. Ça, c'est la valeur de l'amplitude maximale. Ensuite, on prend les curseurs pour avoir le temps. Je montre les deux mesures importantes. Donc, début du phénomène, maximum du phénomène. Et on a 3,6 secondes. Ça veut dire que pour augmenter l'amplitude de ce niveau à ce niveau-là, il a suffi de 3 secondes 6. Donc ça, c'est les valeurs les plus importantes. Je vous demandais de prendre aussi la latence, la diminution de l'amplitude jusqu'à la moitié. Bon, là, vous voyez, là, on ne peut pas la mesurer, donc c'est même pas la peine de le faire. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de perturbations. Mais quand le signal est beau, que la courbe arrive ici, descend, et puis revient progressivement, là, le signal est vraiment, théoriquement, c'est celui qu'on a trouvé. Je vais vous en montrer un juste après. Ça, c'est super, et vous pouvez prendre toutes les mesures. Mais si vous avez déjà ces deux mesures ici, le temps de montée et l'amplitude maximale, vous pouvez avoir de très bonnes données. Je vous montrerai juste après, avec les tableaux, ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est un exemple. Je vous montre un exemple, un bon exemple. Donc c'est le bon exemple, c'est pas Jean-Luc. Hein? C'est Géraldine. Quel numéro, par exemple?
Tu les as à priori, tu les as peut-être pas eu, non?
Ah oui. Le 9.
Voilà. Ça, c'est presque comme dans les livres. C'est presque à cause de ces perturbations qu'il y a ici. Mais sinon, regardez ça. Ça, c'est super. Là, l'amplitude, elle est assez extraordinaire. Bon, c'est sûr que Jean-Luc, avec le rugbyman, c'est autre chose. Ça, c'est clair. Mais donc là, on a une amplitude de 1,46 volts. Vous imaginez un peu? Là, c'est beaucoup. Et le temps? Pour arriver au maximum, 3 secondes 6, pareil. Pareil que le précédent. Ça vous donne une petite idée de la pente. Là, lorsque vous prenez cette amplitude, vous divisez par le temps, vous avez la pente. Et là, ce signal-là est beaucoup plus fort que celui que je vous ai montré juste avant. Pas juste en amplitude, mais en montée en amplitude. Maintenant, si j'essaie de vous montrer des valeurs, je vais reprendre un tableau. On va prendre un tableau. C'est mes parties. Voilà. Laurent. Oui, voilà. Alors, regardez. Ce que j'ai fait. Alors là, vous avez les valeurs. Dans ce tableau de valeurs, il y a les latences. Bon, il y a beaucoup de zéros parce qu'il y a eu quelques endroits où, quelques enregistrements où se passait rien. À chaque fois que s'est passé quelque chose, vous avez des valeurs qui apparaissent. Ici, Par exemple, dans l'amplitude relative, là c'est ce qu'il faut faire pour avoir les valeurs en pourcentage. Là, c'est mal calculé, mais en pourcentage du maximum. Alors, je vous montre ce qu'il y a à faire. Je cherche le maximum. 363, 552. 552, c'est 552. Donc, là, le calcul qui est fait, c'est la valeur de l'amplitude maximale. Donc, vous voyez, là, c'est D2 ici. Divisé par la valeur maximale, donc la valeur maximale ici ça sera 552 et multiplié par 100, ça vous donne le pourcentage. Pour le premier ça restera à 0, mais si on copie ça comme ça ici, vous obtenez toutes ces valeurs en pourcentage du 550. L'amplitude maximum, ici. On va mettre cette amplitude ici en pourcentage par rapport à l'amplitude maximale qui est là. Donc, ici, on a la valeur qui est ici, amplitude maximale, divisée par 552, l'amplitude maximale, et multiplié par 100. C'est juste un calcul de pourcentage, c'est tout. Mais en faisant ça, vous allez avoir des valeurs qui seront comparables entre les individus. Bon, le problème, là, je n'ai pas suffisamment de données aujourd'hui pour vous montrer ce qui a bien pu se passer chez tous les sujets. Hein, mais c'est avec ça que je pourrais les comparer. Et c'est aussi pratique pour vous parce que vous allez pouvoir comparer chaque type de stimulus. Alors, ce que vous devez faire là, avec ce genre de données ici, bon, bien que là, il n'y en ait pas beaucoup, hein, mais pour ceux qui ont un tableau complet, ce que vous pouvez faire, c'est comparer stimuli auditifs, stimuli visuels. Vous faites deux grandes catégories et vous regardez ce qui a produit les réponses les plus fortes. Alors, ce qui a produit les réponses les plus fortes, je vais vous faire encore un petit calcul pour vous montrer quelle est la valeur à choisir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous demandez à votre sujet quel stimulus était désagréable, quel stimulus était neutre, quel stimulus était agréable. Et là, vous avez trois catégories que vous pouvez comparer. Bon, là, vous vous apercevrez quand même que c'est l'audio qui est perçu comme le plus désagréable et c'est l'audio qui va donner les plus fortes réponses. Mais là, il y a un petit problème, c'est un problème d'intensité de son. Hein, c'est surtout ça. Là, il faut, nous, pour le TP, c'est la première année qu'on fait ce TP de cette manière. On le faisait il y a longtemps, mais de manière un peu plus empirique, je dirais. Il n'y avait pas de stimuli visuel, il n'y avait pas de stimuli particulier. C'était les étudiants qui choisissaient le stimulus. Bon, et des fois, on avait des TP qui étaient un peu... C'était assez étonnant. Un jour, on a arrêté le TP. Donc, vous avez ces catégories, vous verrez que c'est surtout l'audio, mais c'est dû à l'intensité du son. Vous pouvez essayer de catégoriser aussi que dans les images, l'agréable, le désagréable et le neutre, et voir s'il y a des différences. Bien sûr, là, vous n'avez qu'un seul sujet, donc vous ne pouvez pas faire de statistiques. Nous, on va essayer de faire des statistiques sur toutes les données qu'on a, mais il n'y en a pas assez dans cette année, en tout cas. Parce que, bon, les tableaux sont souvent un peu clairsemés, comme ici. Alors, les valeurs, quand même, là, je vous ai montré comment le mettre en pourcentage. Les valeurs à utiliser, c'est l'amplitude divisée par le temps de montée en amplitude. Et là, ça vous donne la pente. C'est-à-dire, vous faites ici, vous mettez dans le tableau, ici, vous écrivez des pentes, là, et vous écrivez simplement égal l'amplitude maximale divisée
par le temps.
Il va me dire que c'est une erreur parce qu'il y a un zéro en division, mais bon, on va faire comme si ce n'était pas une erreur et on va copier ça. Et voilà, et là où c'est utilisable, vous avez une pente. Et regardez quand même, regardez par exemple, là où on est à 100%, hein, la réponse maximale, elle est peut-être très forte, non, elle n'est pas la plus forte, regardez, ici, cette valeur ici est plus cette valeur ici est plus forte. Vous voyez là, l'amplitude est plus forte, mais cette amplitude qui est un peu moins forte, lorsque vous faites ce calcul, vous montre que la réponse est nettement plus forte dans notre cas. C'est le temps qui a été plus court, oui. On est allé un peu moins haut, mais on est allé plus vite. Donc, vous utilisez cette valeur et vous, là, vous pouvez comparer et vous pouvez dire, tiens, tel stimulus a vraiment fait un effet nettement plus fort que les autres. Vous pouvez les classer en fonction, là, je vous ai dit en fonction du stimuli, vous pouvez aussi classer en fonction de la force de la réponse. Et là, vous pouvez aussi voir s'il y a quelque chose de cohérent dans vos résultats. Le bilan que je vais faire pour les assidus, qui sera prêt à la fin de la semaine prochaine, je vais le faire sur plusieurs individus. Je vais faire ça dans la semaine prochaine. C'est ça que vous utiliserez. Mais là, je suis en train de vous montrer la méthode. Donc là, vous avez bon, pour la liste de stimuli qui est dans le diaporama. Ensuite, alors je ne sais plus si c'est là. Hein? Oui. Alors on a copié. Là, c'est les valeurs du questionnaire. Donc on a fait un questionnaire. Il y a une vingtaine de questions. Et l'étudiant qui servait de sujet devait répondre par oui ou par non. Mais il devait mentir ou dire la vérité. C'est lui qui décidait. Donc c'est ce que vous avez ici. Donc vous avez là vrai, faux, vrai, ainsi de suite, sur les 20 questions qui ont été posées. L'amplitude maximale qui a été mesurée, le temps de monter à cette amplitude maximale. On a les valeurs en pourcentage de, je ne sais plus lequel c'est, 290, 310. Voilà, on est à 100% ici. Et regardez, là encore, quand on mesure la pente, ce n'est pas celui-là qui est le plus fort. Le plus fort, c'est celui-là, qui est juste avant. Donc on a la série de questions, on a la force de la réponse. On l'a copié sur la feuille suivante. Et regardez, bon là, ce qu'on a fait, je vais peut-être le remettre. Là, on les a classés par vrai et faux. Bon, vous voyez quand même que le faux, c'est celui qui est le plus fort, mais ce n'est pas significatif parce que bon, le suivant, c'est un vrai. Et puis, il y a un vrai et un faux qui sont à peu près au même niveau. Là aussi, un vrai et un faux qui ne sont pas loin. Et vous voyez que, bon, de cette manière, on n'arrive pas à extraire le vrai du faux. Bon, pensez quand même que les gens qui utilisent les détecteurs de mensonges sont quand même plus performant que nous, ils font ça tous les jours, hélas, mais ils noient les questions importantes, essentielles, dans une masse de questions qui chacune vont provoquer des réactions. Et c'est justement en comparant toutes ces réactions avec cette question qui est là-dedans, qu'ils vont pouvoir dire, a menti ou pas. Mais pensez quand même que bon, quand vous avez une réponse qui est forte sur une question où on dit la vérité, ça peut vouloir dire que pour dire cette vérité, il a fallu réfléchir. Si vous réfléchissez, vous allez avoir une réponse. Plus la réflexion est forte, plus il y aura de réponses. Mais la question peut aussi simplement provoquer une émotion sur l'individu. C'est pourquoi on me pose cette question. Et là, vous avez une réponse. La question peut être choquante. Vous répondez la vérité, mais ça a provoqué une émotion, donc une réponse. Donc vous voyez un peu tout ça, c'est juste en faisant ça, on n'y arrive pas. Ben, ce n'est pas aussi simple que ça. On critique le jeu, et je continuerai à critiquer quand même le détecteur de mensonges, mais c'est pas, c'est, ça, c'est caricatural par, comparé à ce qui est fait. Donc là, vous pouvez les classer comme ça. Bon, ce n'est pas très compliqué à classer. Je vous laisse le graphe là. Et regardez, lorsque vous sélectionnez toutes vos données, hein, c'est très bien Excel pour ça, vous triez, vous faites un tri personnalisé, on va trier par rapport à l'amplitude, par rapport à la pente, pardon. Donc la pente, c'est la colonne C, on va du plus grand au plus petit, et voilà. Et là, bon, on va du plus grand au plus petit, et s'il y avait une différence entre vrai et faux, on verrait tous les vrais d'un côté, tous les faux de l'autre, ou à peu près. Et là, regardez, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Il y a quelques vrais ici, puis un faux, puis un vrai. C'est... Là, j'ai vu quelques autres valeurs d'autres étudiants. C'est à peu près du même genre. Donc, on n'arrive pas à extraire ce type d'informations. Comme lorsque vous classez en fonction de agréable, désagréable, vous allez trouver une différence, mais elle n'est pas significative. Et d'un individu à un autre, ça va changer, ça peut être inversé pour les mêmes stimuli. Donc, c'est pas performant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est quand même des tests qu'on utilise parce que ça nous permet de voir qu'il s'est passé quelque chose sur l'individu. Donc, quand on fait de la recherche, imaginez, on essaie de mettre en évidence des processus attentionnels. On peut utiliser ce genre de technique. Là, par exemple, on a commencé à faire une recherche avec des acteurs du TNB, l'école d'acteurs du TNB. Ils sont venus ici au Diapason faire une représentation. Ils en ont fait plusieurs dans différentes situations, avec différents types de publics. Et on leur a mis sur les mains un de ces appareils très modernes qui nous ont été prêtés par une compagnie qui a les moyens. Et donc, ils ont joué avec l'appareil à la main. Et on a mis aussi quelques-uns de ces appareils dans le public. Et on va essayer de traiter ces données pour voir si les émotions se passent au même moment chez l'acteur et chez le public, si ça se passe chez l'acteur ou pas. Mais on peut, avec ce genre de technique, voir des choses. Voit un état émotionnel de l'individu. Sans rentrer dans le détail, ça fait plaisir ou pas plaisir, bien sûr. Mais bon, on peut rajouter aussi, on peut mettre beaucoup d'électrodes ailleurs et essayer de voir si, dans la somme de capteurs physiologiques, on n'arrive pas à extraire une information qui pourrait nous donner une idée de la valence du stimulus, la valence émotionnelle du stimulus. Est-ce que ça va provoquer une émotion plutôt positive ou plutôt négative? Mais juste qu'avec ça, on n'y arrivera pas. Ok, bon, le TP que vous avez là, c'est quelque chose qui est en train de redevenir quand même assez commun dans les recherches chez l'homme. Et ça montre quand même que c'est quand même intéressant et ça, en général, ça fait plaisir aux étudiants de voir ça. Je ne sais pas si j'ai autre chose à vous dire.
Est-ce que les...
Il y a encore le temps. Donc,
les polypes qu'il y avait, par exemple, sur les ordinateurs, là-bas, qui présentaient ce
qu'ils faisaient. Oui, je peux le mettre sur... Je peux le donner...
Oui, c'est bien. Et je ne sais pas s'il y en a un sur les souris.
Il y en a un aussi sur les souris, oui.
D'accord.
Donc, je vais le noter quand même. Pensez quand même que sur Internet, vous pouvez trouver énormément de données sur la réponse électrodermale. C'est vraiment, vous pouvez trouver des PDF de diaporamas, vous pouvez trouver des PDF d'articles sur cette réponse électrodermale. Bon, pensez que c'est pas que le détecteur de mensonges. Il y a beaucoup de gens qui font du biofeedback. Ça, c'est l'un des appareils qui sert au biofeedback. Il y a d'autres appareils, il y a des gens qui font de l'EEG en biofeedback. Ils se mettent des électrodes sur la tête et ils regardent les ondes sur l'ordinateur et ils les modifient. Ils peuvent se calmer ou s'énerver. Enfin. Bon, et ne vous faites pas avoir par les gens de l'église de Scientologie qui vendent ça à des prix exorbitants et qu'après, en plus, ils continuent à vous demander des sous. Hein. Et ils n'ont... Comment ? Ça dépend de quel côté on est. Oui. Bon, mais... Je préfère être du mien. Mais vous, si vous tapez biofeedback et brain feedback sur Internet, vous allez tomber sur une multitude de sites. Il y a du sérieux, il y a du moins sérieux, ils sont tous plus ou moins farfelus. Mais il y a du vraiment sérieux parce que le biofeedback peut être aussi utilisé en clinique. Et ceux qui font du brain feedback sont très performants et ont participé au développement de techniques qui permettent aux tétraplégiques de communiquer avec un ordinateur. Ouais, vous mettez les électrodes sur la tête et le gars va commander la souris de l'ordinateur. Et donc va pouvoir écrire, va pouvoir faire passer des informations. Donc il y a beaucoup de farfelus, mais il y a des choses très 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 sérieuses et très 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 utiles aussi. Et ça en fait partie. Quand même.
Oui.
Non, il ne faut jamais dire ça. Il faut dire, bon, je suis naïf en oui, la matière.
En cette fin de journée, pour l'exploitation des données, donc dans les souris, donc on a les museaux de pattes, quatre pattes, par exemple, au moment du passage, etc. Vous dites qu'il faut l'exploiter en pourcentage. Mais du coup, en pourcentage de quoi, enfin, de...
Non, non, là, c'est des latences. On ne va pas exprimer les latences en pourcentage. C'est les comportements, c'est les positions, soit dans le labyrinthe, soit dans la...
Ah oui, donc s'il a été 3 fois sur 10 en marche étirée, par exemple, il faut que
c'est plutôt les lieux dans lesquels...
Oui, c'est les lieux dans lesquels il est, mais bon, ça peut être la marche étirée, ça peut être exprimé comme ça, oui. Mais c'est surtout la position à un instant donné, il est là. À l'autre instant, il est là. À l'autre instant, il est de nouveau là. Et quand on a toutes les données, on exprime ça en pourcentage de toutes les observations qu'on a faites. Non, c'était pas idiot comme question. Vous avez 4 cours magistraux, vous avez 3 TP. Il peut y avoir des questions sur tout. Vous avez vu au premier semestre comment on formule les questions. Enfin, moi, je mets toujours un cadre dans lequel l'étudiant va répondre. Pour l'obliger, d'une part, à avoir un esprit de synthèse. Parce qu'aussi, j'ai commencé à avoir l'habitude des étudiants de psycho. Quand j'ai commencé, c'était en 91. Avec les étudiants psycho, moi, j'ai commencé à corriger des copies. J'en ai corrigé beaucoup, et alors ça m'arrivait d'avoir des réponses à des questions simples. Quand je dis simple, il suffit d'écrire 2-3 phrases, d'avoir 2-3 pages. Et là, dans ces 2-3 pages, on cherche l'information. C'est ça qu'on fait. Et bon, souvent, les étudiants ont tendance à s'étaler. Pensez que plus vous écrivez, et plus vous risquez de dire des bêtises. Et que les bêtises, ça énerve souvent. Il y a un moment où, quand on est à la 230e copie... Quand on est à la 200, je peux vous dire que quand on est à la 230e copie et qu'on voit une copie blanche, on est content. On a presque envie de donner une bonne note. Et quand on tombe sur une copie où il y a un texte, bon, en plus je demande de mettre de répondre dans une case et que ça dépasse en haut, sur les côtés et en bas, et écrit tout petit, alors que quelqu'un d'autre a écrit juste avant ou va écrire ou juste la copie juste après a écrit en gros juste 2-3 phrases et a répondu à la question, hein, c'est fatigant.
Parce qu'effectivement, sans doute que j'ai une propension à ne pas faire en 3 phrases, sûrement, mais vu que ma mine est déjà biseautée, etc., donc ça prend beaucoup de place, et c'est vrai que je me disais, mais j'ai utilisé un bic.
Oui, il y a des pointes fines qui sont très bien. Entraînez-vous. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre. Pour apprendre, il faut comprendre. Si vous avez compris, vous pouvez répondre très simplement. C'est vraiment, ça peut être très simple, très clair. Et quand je vous mets un petit rectangle avec 20 lignes, ça veut dire qu'on peut répondre en moins de 10 lignes. J'y ai réfléchi quand même. Vous savez, on commence à avoir l'habitude. Si je veux faire un examen d'une heure pour un étudiant, il faut que moi je puisse répondre en 20 minutes.
Okay.
Et quand je peux répondre en une phrase, j'imagine un peu tout ce que peut dire l'étudiant et je mets un certain nombre de lignes. Donc ne vous inquiétez pas pour le cadre, il est largement suffisant. Alors là, une chose importante, faites attention, on a envie de démontrer comment on a compris. On pose une question, il faut répondre à la question, et que à la question. C'est important, il y a beaucoup de textes qui sont hors sujet à cause de ça. Et en fait, l'important c'est la question. Relisez la question. Aussi.
Prenons par exemple la question de la nuit du sommeil paradoxal. Non, c'est la nuit type du
sommeil.
Alors que fallait-il?
Il y a un paragraphe dans le cours avec ce titre. C'était ce qu'il y avait dessous.
Donc il fallait même plus parler des ondes, etc. Non, c'était le schéma.
Mais il fallait absolument parler quand même de sommeil lent, de sommeil paradoxal, des cycles, de combien il y a de cycles, au début de la nuit c'est surtout du sommeil lent, en fin de nuit c'est sûr. C'était pas la peine. Il y en a qui... Oui, mais j'ai posé une question, dans votre cours vous avez une partie de ce cours où il y avait ça, c'est que ça, c'est tout. Répondez à la question et un conseil, relisez. Un conseil, relisez la question 2 fois, 3 fois s'il faut. Il faut comprendre la question et ne répondre qu'à la question.
C'était dans le chat en
scolaire qu'il y avait des. Oui. Oui, c'était avant. C'était avant. D'accord, c'était juste avant. C'était juste avant. Il y a les ondes. Et après vous avoir décrit toutes les ondes, je vous dis. Bon, faites attention, c'est pas la chronologie. Ça, c'est les ondes. J'ai décrit les ondes. Maintenant, comment ça se passe pendant une nuit type ? Ok ?